Amis auditeurs, bienvenue à vous tous pour notre panorama info de ce jour. Nicole à ce micro et je vous retrouve pour, comme d'ailleurs je vous l'avais annoncé, où nous allons parler de l'Avent et de ce temps de l'Avent avec les prophètes. Nous parlerons également énergie, une fois n'est pas coutume, et aussi du wokisme. Alors, on va commencer peut-être avec l'énergie. C'est un article qui a retenu mon attention dans le magazine Famille Chrétienne. En effet, pourquoi les prix flambent ? Je pense que ça, c'est une question qui nous intéresse tous et que nous nous posons. Peut-être certains d'entre vous déjà ont quelques éléments de réponse. Voyons ce qui nous est dit. Dans ce bon article de Charles-Henri Dandinier, qui nous explique qu'en constatant que le prix du gaz et de l'électricité atteint des sommets, les causes sont françaises et internationales, économiques et politiques, mais aussi idéologiques. Quelques explications. Du jamais vu, des factures d'électricité qui s'envolent, des notes de gaz qui crèvent tous les plafonds, et des explications qui n'en sont pas. La guerre en Ukraine, elle joue certes un rôle, mais les causes sont multiples et les racines bien plus profondes. Cette hausse touche toute l'Europe à des degrés divers et la France n'y échappe pas. Plusieurs raisons immédiates l'expliquent. D'abord, la reprise de l'activité économique après la crise du Covid-19 qui tire l'ensemble des prix vers le haut. Ensuite, l'état du parc français des centrales nucléaires qui réduit l'offre et fait grimper mécaniquement les prix. Non seulement ce parc est vieillissant, 24 réacteurs opérationnels sur 56, mais le gouvernement d'Édouard Philippe en 2020 a décidé la fermeture de la centrale de Fessenheim dans le Haut-Rhin. Une décision politique au sens le plus politicien du terme prise pour complaire aux alliés écologistes de la majorité. Quant à la guerre en Ukraine, elle a entraîné une baisse très importante des exportations de gaz russe vers l'Europe. Or, ce gaz n'était pas très cher. Le gaz de schiste américain qui le remplace, en partie, est nettement plus coûteux. Le prix de la morale, dira-t-on. Sauf que l'Union européenne a signé en juillet dernier un accord avec l'Azerbaïdjan pour doubler d'ici quelques années les importations européennes de ce gaz en provenance de ce pays. Or, non seulement il y a du gaz russe dans le gaz azerbaïdjanais, mais l'Azerbaïdjan a agressé militairement le Haut-Karabakh à plusieurs reprises ces dernières années. Deux poids, deux mesures. Le système énergétique européen tel qu'il se développe dans le cadre de la transition énergétique a considérablement augmenté sa dépendance au gaz pour une raison très simple. C'est ce que nous explique Philippe Chalmin, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, ce qu'il explique donc à Charles-Henri Dandinier de Famille Chrétienne. Cette transition voulait que l'on mette l'énergie nucléaire de côté, que l'on s'efforce de façon légitime de réduire la dépendance au charbon, que l'on exclue le gaz de schiste jugé trop polluant et que l'on privilégie les énergies renouvelables et l'électrification de l'économie. La source d'énergie idéale était le gaz, notamment le gaz russe, peu coûteux et en plus facile à utiliser. Et on avait négligé un détail, les énergies renouvelables sont intermittentes et quand il n'y a pas de vent ni de soleil, il faut bien alimenter les centrales électriques avec une source d'énergie. La solution, là encore, c'était le gaz. La rupture avec le gaz russe ne pouvait qu'entraîner des conséquences sur l'équilibre énergétique européen. Alors, petit lexique, ce qu'on appelle le bouclier tarifaire. Le gouvernement a annoncé donc la mise en place de différentes mesures destinées aux entreprises, notamment un guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité. Elles seront simplifiées à la fin du mois de novembre, maintenues en 2023. Le coût total, 12 millions d'euros, qui, d'après le gouvernement, ne creuseront pas le déficit. Tout est financé, assure Elisabeth Borne et Bruno Le Maire. Revenons donc à notre question. Où on est en droit de s'interroger, amis auditeurs, sur la spéculation et la volatilité des prix. Oui, À cela s'ajoute l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence, imposée par l'Europe dans les années 90. Les mégawattheures s'échangent dans une bourse spécialisée à des cours qui varient selon l'offre et la demande, ce qui est censé favoriser la fluidité du marché, mais engendre aussi spéculation et volatilité des prix. L'économiste Jean-Luc Gréau explicite les conséquences du trading dans le secteur énergétique. Son expansion protégée par les États a conduit à une instabilité chronique des prix des grandes matières premières, préjudiciable tant aux producteurs de ces matières premières, qui ne peuvent ouvrir sans risque majeur de nouvelles capacités en l'absence d'une garantie de prix dans la durée, qu'aux grands consommateurs industriels qui devraient pouvoir calculer leur prix de revient, dans les mêmes conditions. Toute chose qui réclame des négociations de prix dans un cadre contractuel, mais que l'Europe rejette pour mieux favoriser les intérêts des acteurs de la sphère financière. Point. La citation donc de Luc Gréau s'arrête là. Mais il ajoute que ces activités de trading sont responsables d'une consommation d'électricité non négligeable. Bien sûr, la sobriété est bonne en soi. La demande d'énergie, poursuit l'économiste, est en croissance constante depuis des décennies. Les Occidentaux ont pour de triviales raisons de topage des prix des actions délocalisées sur une vaste échelle, regrette-t-il. Résultat, tous nos smartphones, nos ordinateurs, nos écrans plats viennent d'Asie par avion cargo, qui repartent à vide vers les sites de leur réalisation en créant un besoin d'énergie qui n'existait pas quant à la production se faisait là où était la demande. C'est pourquoi l'une des solutions à ses yeux serait de baisser notre consommation d'énergie en relocalisant les activités qui pourraient l'être. Et la sobriété, point d'interrogation, elle est bonne en soi, mais selon lui, Emmanuel Macron se trompe de public et de cible quand il réclame la sobriété aux citoyens ordinaires, tandis qu'il soutient le système néolibéral le plus énergivore de l'histoire humaine. Question. Pourrait-on plafonner les prix ? Cette solution conviendrait aux pays consommateurs, mais pas aux pays producteurs. Nos amis norvégiens n'ont aucune envie de vendre leur gaz moins cher, note Philippe Chalmin. Quant à l'Allemagne, elle a annoncé un plan de compensation de 200 milliards d'euros, ce qui représente une distorsion de concurrence vis-à-vis de leurs partenaires et concurrents européens. Le professeur d'économie propose également d'approfondir les recherches sur l'hydrogène qui en sont pour l'instant à un stade expérimental. Bref, c'est peu dire dans cette affaire, les Européens tâtonnent et cherchent leurs repères. Oui, gaz et électricité sont liés. Peut-être le grand public ne l'a découvert que récemment. En raison du rôle du gaz dans notre consommation d'énergie, le prix de l'électricité est corrélé à celui du gaz. Tant que le gaz est à un prix raisonnable, tout va bien. Si son prix s'envole, c'est la catastrophe. Pourrait-on détacher le prix de l'électricité du prix du gaz, peut-on s'interroger ? On le pourrait, mais pas de manière indépendante, répond Philippe Chalmin, je vous le rappelle, professeur d'économie à Paris Dauphine. Le système électrique européen, poursuit-il, est aujourd'hui totalement interconnecté, donc il faudrait revenir à une sorte de prix de l'électricité administrée au niveau européen. Pour des raisons à la fois politiques et idéologiques, le désir de privilégier l'économie de marché, cela n'apparaît pas possible. Voilà, mes auditeurs, me semblait intéressant ce point de vue qui nous éclaire aussi un petit peu parce que, pour ma part en tout cas, je l'avoue, on est complètement noyé dans le brouillard et on ne sait plus à quoi véritablement à qui véritablement se fier et que croire dans tout ce qu'on nous raconte. Deuxième partie de notre dossier, je vais revenir, on en avait déjà parlé, sur cette idéologie qui fait très mal, le wokisme, qui est en quelque sorte une religion sans pardon. En effet, dans un essai choc, le philosophe Jean-François Brostein explore les racines de ce nouveau fanatisme religieux qui déferle sur la France pour nous aider à mieux y faire face. Je vous livre donc cet entretien, une partie de cet entretien. Alors, d'abord, un petit rappel on pourrait dire le wokisme pour les nuls, la pensée éveillée se fonde sur des théories fumeuses. Petit échantillon. Théorie du genre, il n'existerait pas de sexe biologique, donc on est en plein dans le déni, mais un sexe assigné à la naissance dont il faudrait se libérer dans un acte, un mythe quoi, d'autodétermination. Dans le viseur, la différence sexuelle et l'hétéronormativité. Hein ? Être hétéro, ce qui est naturel, n'est plus normal, hein, selon cette théorie du genre. Théorie critique de la race, elle compose le volet antiraciste du mouvement woke. En gros, il n'y a pas d'autre moyen que de convoquer la notion de race, jusqu'ici complètement discréditée, pour combattre le racisme social. La lutte des races venant se substituer ou se superposer à celle de la lutte des classes. Et ça produit des choses très, très dangereuses qui se déroulent surtout, même chez nous, mais essentiellement aux États-Unis, dans les universités. On l'avait évoqué lors d'un précédent dossier. Et puis la théorie de l'intersectionnalité, qui est apparue dans les années 90, elle ambitionne de rassembler les combats de toutes les identités minoritaires qui s'estiment discriminées. Alors, vive l'optimisation des luttes. Là, c'est vraiment des rapports de force et de violence qui sont en train de se manifester, de malheureusement d'évoluer. Donc, voici ce que nous dit le philosophe Jean-François Bronstein, en quelques mots, qui est professeur émérite de philosophie contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste d'épistémologie, d'histoire des sciences et de philosophie de la médecine. Il est l'auteur notamment de « La philosophie devenue folle » qui est paru en 2018. La société Disney qui invite ses employés blancs à dresser la liste de leurs privilèges. La campagne de Louboutin à l'été 2021 portée par la militante antiraciste Assa Traoré. Des activistes politiques qui font la loi à l'université et traquent les professeurs tendance vieille école. Les mêmes qui se déchaînent sur Internet, sucent aux transphobes et aux racistes. Des stages de déconstruction ou des séminaires, entre guillemets, antiracistes qui se multiplient. Au nom de la lutte contre les discriminations, un nouveau terrorisme intellectuel se met en place dans les sociétés occidentales. Une idéologie insidieuse, maintenant bien analysée, il y a de très nombreux livres sur ce sujet, qui se répand un peu partout, médias et cultures, entreprises, haute administration, enseignement, médecine, etc. Dans la religion woke, le philosophe Jean-François Bronstein explore les racines philosophiques de ce mouvement qui renverse tous les cadres habituels de la pensée et dont l'objectif est de déconstruire l'héritage culturel et scientifique d'un Occident accusé d'être systémiquement sexiste, raciste, colonialiste. Quelques explications. Venu des universités américaines, le mouvement woke, dont le terme signifie « éveillé, conscient », est en train de déferler sur la France de manière inquiétante. J'ai voulu mettre en valeur son aspect religieux, car l'enthousiasme de ses militants évoque bien plus les réveils protestants américains des 18e et 19e siècles que la French Theory, à laquelle on le rattache un peu vite. C'est la première fois dans l'histoire moderne qu'une sorte de culte prend naissance dans les universités avec sa propre vision du monde, ses dogmes, privilèges blancs, sexe assigné à la naissance, appropriation culturelle. Ses adeptes, ses rites, lavement de pieds des Afro-Américains en geste de repentance, ses textes quasi sacrés, etc. Le rôle ambigu du monde universitaire dans l'essor de ce mouvement rend hélas une critique scientifique et rationnelle presque impossible. Mes collègues qui se sont ralliés au wokisme du jour au lendemain ne l'ont pas fait malgré l'absurdité de ces doctrines, mais précisément à cause de leur aspect irrationnel, avec l'idée d'avoir trouvé comme une vérité supérieure. Rejetant l'individualisme et l'universalisme des Lumières, les woks estiment avoir inventé quelque chose de totalement neuf, mais ils ne prétendent pas agir au nom d'un avenir meilleur. Leur religion est une religion de l'épuration et de la pensée magique où le pardon est complètement absent. Aucun argument n'a d'effet sur eux. On peut tenter de les arrêter, mais non de les convaincre. Le plus grave est l'endoctrinement des jeunes générations. Peut-on le considérer comme un nouveau gnosticisme ? Oui, cela ressemble beaucoup à la gnose, cette hérésie chrétienne du IIe siècle combattue par saint Irénée de Lyon, fondée sur une illumination intérieure réservée à des initiés, ainsi que sur le rejet de la matière et donc du corps, considéré comme intrinsèquement mauvais. La vision utopique d'une pure conscience qui pourrait se libérer totalement du poids du corps et par la même occasion de la différence sexuelle fait une bonne part du succès de la théorie du genre. Ce n'est clairement pas la conscience au sens de saint Augustin, de l'intimité de la personne, mais une conscience flottante, vaporeuse, interchangeable, entretenue par Internet, formidable usine à produire des images stéréotypées. Je peux me sentir homme ou femme, mais aussi animal, fleuve, etc. Il n'y a que dans le monde du métavers qu'on peut changer de corps à volonté. Dans la réalité, c'est un chemin généralement catastrophique, avec des dommages irréversibles. Comme le décrit très bien la journaliste américaine Abigail Schrier. La théorie du genre au cœur de la religion woke est en parfaite harmonie avec les tendances du transhumanisme contemporain. Ce mouvement se caractérise avant tout par une fuite hors du réel. Les causes sont multiples. Des modes de vie de plus en plus hors sol, une jeunesse en manque de combat, une forme de tyrannie de la bienveillance dans laquelle a été élevée une partie de cette jeunesse américaine de milieux privilégiés. Les woke sont plutôt des jeunes blancs issus de grandes métropoles, etc. Dans son livre phare paru en 1995, « La révolte des élites », Christophe Lasch remarquait déjà que nos élites avaient complètement perdu le contact avec la réalité et méprisaient les travailleurs manuels. Les classes intellectuelles sont fatalement éloignées du côté physique de la vie. Elles vivent dans un monde d'abstraction et d'images, un monde virtuel consistant en modèles informatisés de la réalité. Une hyper-réalité, comme on l'appelait, par opposition à la réalité physique immédiate, palpable, qu'habitent les hommes et les femmes ordinaires. Quelle prescience! En 2018, en effet, Hélène Plucrose, James Lindsay et Peter Bogassian ont voulu démontrer avec humour la corruption de la recherche par ces idéologies identitaires devenues folles qu'ils qualifient de « grievance studies », c'est-à-dire « études de la plainte ». Ils ont envoyé à diverses revues scientifiques spécialisées dans le gender, le queer et autres « fat studies », études sur la graisse, une série d'articles délirants et choquants pour voir s'ils seraient publiés. Un sur la culture du viol chez les chiens dans un parc canin de San Francisco. Un autre proposant d'enchaîner les étudiants blancs au fond de la classe pour prendre conscience de la nécessité de payer une réparation aux descendants d'esclaves, etc. etc. Alors, l'objectif, tester les réactions des comités de lecture de ces revues. Eh bien, le résultat a prouvé que l'évaluation par les pairs, qui était le cœur de l'université, ne fonctionne plus. Je m'appuie sur de nombreux textes, thèses, conférences et essais qui avancent des propositions surréalistes aux conséquences désastreuses. Un exemple tout récent. Dans une université du Minnesota, désormais, les étudiants en médecine ne prêtent plus serment à Hippocrate, mais s'engagent à combattre le suprémacisme blanc et la binarité sexuelle et à faire en sorte que les savoirs indigènes, jusqu'ici invisibilisés, prennent toute leur place. Lettres classiques, sciences humaines, et maintenant, biologie, médecine, mathématiques, toutes les disciplines semblent céder les unes après les autres aux sirènes du wokisme. Je ne me sens pas isolée, cependant, poursuit donc Jean-François Bronstein. Aux États-Unis, ceux qui protestent le plus contre ces nouvelles théories sont souvent, eh bien, devinez, des universitaires noirs, des Américains d'origine immigrée qui ont la mémoire du totalitarisme, souvent issus des ex-pays communistes ou des gens ordinaires. La thèse du journaliste Rod Dreher, qui affirme que la puissance de cette idéologie peut venir d'un idéal détourné de compassion. Alors, voici ce que répond Jean-François Bronstein. Il est vrai que la société victimaire constitue l'arrière-fond du wokisme. Ces idéologies identitaires fonctionnent parce que tout le monde veut aujourd'hui être victime et que celle-ci est devenue la référence absolue. Mais bien sûr, la compassion dont se revendiquent ces idéologies, qui trouvent son apogée dans la théorie de l'intersectionnalité et potentialisation de toutes les luttes, est une compassion folle, détachée du réel et de la raison, qui justifie au contraire toutes les inventions de valeurs et les choix politiques les plus absurdes et même violents. Une dérive qu'avait surtout pressentie le philosophe René Girard. Voilà, donc je vous invite à vous procurer ce livre de Jean-François Bronstein, La religion woke, aux éditions Grasset. Et nous reviendrons dans notre prochain dossier sur d'autres faits, notamment tout ce qui se fait en matière de culture maintenant, qui devient très dangereuse même pour les enfants. De tout ce qu'on veut inculquer, etc. Alors, amis auditeurs, je vais commencer avec vous une série aussi sur l'avant. Revenons aussi à ce temps que nous vivons, qui n'est pas hors de notre réalité, mais bien au contraire, qui va nous inviter à entrer dans cette réalité aussi que nous vivons. Une parole pour nous aujourd'hui, dans ce temps de l'Avent, et nous allons le trouver à travers les prophètes. Alors, la semaine prochaine, je vous proposerai un dossier particulier sur Saint Jean-Baptiste, bien sûr le prophète par excellence, mais revenons à cet l'Avent des prophètes, à travers également un très beau reportage que nous en livre Noémie Bertin, journaliste à Famille Chrétienne. Fulgurantes et inspirées, les paroles de nos pères dans la foi ne sont pas caduques. Elles s'adressent encore à nous aujourd'hui, soutenant notre marche vers le Messie qui vient. Attente unique dans l'histoire sainte, celle du Sauveur qu'espère Israël, siècle après siècle. Appelés par Dieu pour parler en son nom, les prophètes ont su garder vivace cette espérance messianique. Le peuple d'Israël expérimente l'œuvre et la fidélité de Dieu et en même temps, il voit que ses promesses ne sont pas toutes pleinement réalisées, commente Mgr Rafik Nara, évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem. Dans le deuxième livre de Samuel, Nathan prophétise à David qu'il lui suscitera un successeur et rendra stable pour toujours son trône. Prophétie davidique, fondatrice, le peuple attend désormais un nouveau David. Et c'est de cette lignée que descendra Jésus, rameau issu de la souche de Jessé, père de David, comme nous le dit Isaïe, chapitre 11, verset 1. Par les prophètes, l'Esprit Saint a parlé, confesse le Credo. Leurs paroles résonnent dans les lectures de l'Avent. Nous attendons toujours la venue du Christ dans la gloire. Les prophéties et toute l'histoire du peuple de Dieu nous aident à mieux connaître le visage du Christ, ajoute Mgr Rafik Nara. Et c'est la lumière du Christ qui éclaire les Écritures. Voici sept paroles à qui emboîter le pas. Première, Isaïe, l'évangéliste de l'Ancien Testament, pourrions-nous dire. Il prophétise l'Immanuel. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. De crème et de miel, il se nourrira jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Isaïe 7, 14, 15. Huit siècles donc avant la naissance du Christ, saisissantes sont ces paroles d'Isaïe. Elles esquissent les silhouettes de la nativité. Elles sont aussi reprises par l'ange du Seigneur lorsqu'il apparaît en songe à Joseph. Elles annoncent de loin la personne messianique du Christ, résume le père Jean-Rodolphe Kars, chapelain à Paray-le-Monial. Mais ce n'est qu'à la lumière du Christ et de la tradition de l'Église qu'on a pu interpréter ces versets comme une prophétie annonçant Marie et Jésus. Les 66 chapitres du long livre d'Isaïe, le plus cité dans le Nouveau Testament, sont à lire dans leur contexte historique. Les prophètes ont parlé pour leur société et leur temps. Ils n'ont pas uniquement annoncé le Christ qui vient, souligne Patrick Pouchel, bibliste et docteur en théologie. La parole de Dieu est valable pour le présent, le passé et l'avenir. Les prophéties ne sont pas des annonces terminées. Dieu vient pour nous aujourd'hui. Ainsi résonne le chapitre 9 d'Isaïe, éminemment messianique, lu dans la nuit de Noël. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Isaïe chante la venue du temps où Dieu sauve et accomplit les promesses de paix et de justice, espérance qui se joue dans l'aujourd'hui du prophète et le nôtre. La musique d'Isaïe, pourrions-nous dire, continue de tintinabuler tout au long de l'évangile de la Nativité. L'enfant Jésus est couché dans une mangeoire, précise Saint Luc à plusieurs reprises, et le terme n'est pas anodin. Isaïe utilise cette image. Isaïe 1, versets 2 et 3. Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne, la mangeoire de son maître, Israël, ne connaît pas mon peuple ne comprend pas. Le Nouveau Testament évoque des mages que la tradition qualifie de rois. Le prophète évoque des têtes couronnées. Isaïe 60, versets 1 à 3. « Debout, Jérusalem, resplendis, les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. » Poétique et efficace, le souffle du prophète saisit l'âme qu'il entend. Par son nom même, le Seigneur est salut en hébreu. Isaïe publie une louange au Dieu fidèle. Et avant de conclure, donc un deuxième prophète, hein, puisque on parlait de sept porte-paroles. Voyons Jérémie, un héros malgré lui, qui soutient l'espérance du peuple. Ainsi débute le livre de Jérémie. « Ah Seigneur, mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Vers cet homme tremble autant qui aspire au silence, l'Éternel étend la main. Voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. » Jérémie commence à prophétiser un siècle après Isaïe. « Quand je rencontrais tes paroles, écrit-il, je les dévorais, elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur. » Son ministère éprouvant l'amène à entrevoir la catastrophe de la déportation. Il meurt peu après la prise de Jérusalem par Babylone en 587. Pourtant, Jérémie porte son regard plus loin encore, annonçant le retour futur des exilés, le bonheur pour Jérusalem. Alors même que se déroulent les événements dramatiques pour le peuple d'Israël, Dieu fait la promesse d'un jour meilleur à la lumière du Nouveau Testament. Ce jour rappelle étonnamment les troupeaux et les bergers de la nuit de la nativité. Voici la voix de Jérémie qui retentit par-delà les collines de Judée. Dans les villes de la montagne du bas pays et du Négev, dans le pays de Benjamin, aux alentours de Jérusalem et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous les mains de celui qui les compte, dit le Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice. Il exercera dans le pays le droit et la justice. Voilà mes auditeurs, dans notre prochain dossier, eh bien, on poursuivra bien sûr avec les autres proverbes, ces autres porte-paroles, puisque le mot prophète en grec veut dire parler pour homme ou femme choisi par Dieu. Le prophète parle tel un porte-parole du Seigneur en son nom. Bien sûr, il est animé par l'Esprit de Dieu. Et par notre baptême, nous sommes membres du corps du Christ et nous participons à sa dignité de prêtre, de prophète et roi, c'est ce qu'on dit au moment du baptême. Un chrétien donc est prophète en servant la parole de Dieu, par sa bouche, bien sûr, mais bien sûr, sans oublier sa façon de vivre. Alors, dans notre prochain dossier, on évoquera Baruch, le prophète Ézéchiel, le prophète Michée, bien sûr, le prophète Sophonie, la joie de Sophonie, et puis nous reviendrons à celui à qui nous dédierons un dossier entier. Il s'agit de Jean-Baptiste. Voilà mes auditeurs, il me reste à vous souhaiter une bonne et sainte journée, et puis bien sûr, merci pour votre fidélité.